Hello les amis, bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti. Ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors, avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous entendez du bruit au fond, c'est que c'est mes lapins, ne vous inquiétez pas, personne n'est en train de se faire saucissonner chez moi. C'est mes lapins, ils sont 4, donc à 4, ils font énormément de bruit. Yes, ils font énormément de bruit quand ils veulent, enfin, ouais, quand ils veulent. Et surtout, en fait, ils choisissent de faire le bruit au moment où je décide, en fait, soit de filmer ou soit d'enregistrer. Enfin, c'est comme si ils se disaient, bon, hop, c'est le moment de l'emmerder un peu. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, personne n'est en train de se faire torturer chez moi. C'est juste mes lapins qui font leur vie. Voilà. Donc, on va passer, du coup, à l'histoire d'aujourd'hui. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je voudrais, en fait, adresser tout mon soutien aux parents du petit Emile qui a disparu depuis quelques jours et qui n'a toujours pas été retrouvé. Je compatis énormément, en fait, à leur douleur et j'espère mais au plus profond de mon âme que ce petit garçon sera retrouvé en pleine santé, qu'il ne lui est rien arrivé, enfin j'espère si c'est quelqu'un qui l'a pris en fait pitié, si vous m'écoutez rendez l'enfant à ses parents on prend pas l'enfant d'autrui pour se dire c'est mon enfant en fait, enfin ça se fait pas donc si c'est quelqu'un qui a enlevé l'enfant, please ramenez l'enfant mais si c'est pas le cas et que c'est autre chose, faut que la personne parle parce que là en fait c'est tout un pays qui est en apnée je vous jure en fait les battements de mon cœur sont au ralenti depuis en fait que j'ai appris la disparition du petit garçon, donc vraiment on est tous en apnée, please, enfin si quelqu'un sait quelque chose, parlez en fait parce que là c'est pas possible, c'est vraiment pas possible en fait, donc surtout moi quand ça touche des enfants, c'est alors là c'est la totale pour moi, ça peut me tuer limite. Surtout des enfants comme ça, enfin ils sont adorables, ils sont mignons comme tout, bon ils sont un peu une épine dans ton pied quand il le faut, mais en fait ils sont adorables et franchement je vois pas en fait comment tu peux faire mal à un enfant quoi. Donc please, si quelqu'un écoute mon podcast que la personne sait quelque chose, pitié, appelez le numéro de la ligne qui a été ouverte suite à la disparition du petit garçon et donnez des infos, enfin pitié, voilà. C'était juste mon petit message et mon gros message de soutien à ses parents, franchement, j'espère que... C'est leur calvaire est bientôt terminé. Je le souhaite en fait, mais vraiment de tout cas. Donc, c'était une petite parenthèse du coup pour réagir par rapport à l'actualité. L'actualité quoi. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui et nous allons encore une fois parler d'un cold case. Oui, cette fois. En fait, depuis je sais pas quand là, j'ai une pochette surprise et de cette pochette surprise, je sors les trucs en mode hop. Hop. Nous allons parler d'un cold case. Nous allons parler de l'affaire Ashley Heuillette. Je lis Heuillette, mais je vais vous mettre le nom. Si vous le lisez d'une autre manière, je franchement, courage. Moi, j'arrive pas à le lire. Je sais pas si je dois dire Heuillette ou Yette. Donc, je dis Heuillette. Voilà. Donc, qui était Ashley? Ashley Heuillette est née en mars 1983 et ses parents s'appelaient Liz et Robert Heuillette. Les parents d'Ashley étaient des agents immobiliers du coup dans la région où ils habitaient et tout se passait bien jusqu'à ce que Ashley n'atteigne l'adolescence. Alors il est important de noter que Ashley avant son adolescence était une très bonne élève, une enfant respectueuse, une bonne enfant jusqu'à ce que l'adolescence l'a frappée et elle est devenue tout le contraire. Donc ses notes ont commencé à baisser, elle était de plus en plus insolente, elle ne respectait plus les couvre-feux, elle fumait, elle buvait, donc etc. Donc avec cette nouvelle attitude, Liz et Robert ont décidé du coup d'inscrire Ashley à des cours de thérapie avec des psychologues et des psychiatres. Et en plus de ça, ils lui ont changé d'école et carrément de système d'éducation. Donc le truc, c'est que la méthode va fonctionner et le comportement et les notes de Ashley se sont bien amélioré. On atterrit du coup donc le 9 février 1999. Ce jour-là, Ashley est rentrée d'école et dans la soirée, elle va demander à ses parents si elle pouvait aller passer la nuit chez l'une de ses amies. Alors, il est important de noter que le lendemain, Ashley avait école. Donc au début, ses parents étaient en mode what like now, mais en fait, ils vont repenser en fait à tout le progrès qu'elle a fait récemment, et ils vont se dire bon, une petite escapade, ça change, enfin voilà, ça tue personne. Donc ils ont fini par accepter. L'une des raisons qui va vraiment pousser les parents du coup à accepter, c'est le fait que la copine chez qui Ashley devait se rendre n'habitait pas loin du domicile de ses parents. Donc en fait, ils savaient que s'il se passait quelque chose, ils étaient proches en fait, et que ils pouvaient voilà, enfin ils avaient accès. C'est pas loin en tout cas. Donc Ashley arrive chez son amie, elles étaient plusieurs du coup, et elles passent le temps en mode tout va bien. Et aux alentours de 22h, Ashley va appeler ses parents pour leur dire que tout va bien et va leur souhaiter bonne nuit. Donc les parents, en fait, comme ils entendaient les autres filles chit-chatter au fond, ils se sont sentis rassurés en quelque sorte, et ils ont souhaité bonne nuit à leur fille. Ce que les parents ne savaient pas, du coup, c'est que les parents de la fille chez qui Ashley s'était rendue n'étaient pas à la maison. Donc les filles étaient sans surveillance d'adultes dans la maison, et absence d'adultes équivaut à alcool à gogo et invitation de garçons plus âgés. Donc un peu plus tard dans la soirée, aux alentours de minuit, Ashley qui avait tellement bu, elle était déchirée, elle va décider de se rendre au domicile de son crush Steven Sanborn, un garçon de 18 ans qui était le frère du camarade de classe de Ashley, aka Daniel Sanborn. Donc, notez que Steven avait une petite amie, mais apparemment, entre ses 14 ans et ses 15 ans, il avait eu des relations intimes avec Ashley, qui avait à l'époque 12 ou 13 ans. Se pose alors la question, est-ce qu'ils ont continué à se voir au fil du temps? I don't know. Seul Steven peut le dire aujourd'hui. Mais Ashley avait raconté à ses amis qu'elle aimait être en compagnie du coup de Steven lorsqu'elle était bourrée. Ok, why not? Donc, pour se rendre au domicile de Steven, Ashley va demander à un garçon nommé Jason s'il pouvait la conduire chez sa tante, car elle devait garder les enfants de sa tante le matin tôt. Le truc, c'est que Ashley va donner l'adresse du coup des Sanborn à Jason comme étant du coup l'adresse de sa fameuse tante, et en ignorant que Jason était proche des frères Sanborn et que Jason savait très bien qu'il ne la conduisait pas chez sa tante, mais chez les frères Sanborn. Donc, Ashley et Jason arrivent au domicile de Steven et Daniel, et ils ont frappé à la porte plusieurs fois et personne ne va leur ouvrir. Du coup, Ashley va demander à Jason de l'emmener à une cabine téléphonique pour qu'elle puisse appeler pour qu'on lui ouvre. Et le truc, c'est que quand elle appelle, c'est un jeune homme du prénom de Cody qui va répondre au téléphone. C'est un jeune de 18 ans qui vivait avec les Sanborn. Donc, Cody lui répond. Et elle lui demande du coup de lui ouvrir la porte quand elle va débarquer à nouveau. Donc elle réarrive au domicile des Sanborn vers minuit 45. Et lorsqu'elle frappe à la porte, c'est Daniel et leur maman, du coup la maman de Daniel et de Steven, qui vont ouvrir la porte. Donc en fait, Ashley ne s'attendait pas à ce que la mère sorte et qu'elle ouvre la porte. Donc elle va inventer une excuse disant que sa mère l'avait mis à la porte et qu'elle cherchait juste un endroit où dormir pour aller à l'école le lendemain. Elle va demander à la mère si elle pouvait dormir du coup dans le canapé de la maison. Donc la mère accepte et Ashley entre dans la maison et se couche du coup sur le canapé. Alors on ignore ce qui s'est passé entre cet instant-là et 3h57 du matin. Donc c'est 3h57 le matin du 10 février. Mais à 3h57 le matin du coup du 10 février 1999, un monsieur et sa mère qui étaient en voiture conduisaient sur une route de campagne sombre lorsque le monsieur va freiner brusquement parce qu'il y avait quelqu'un du coup sur la route. Et donc ils descendent pour vérifier que la personne va bien, etc., etc. Et en fait, c'est là qu'ils tombent sur le cadavre d'une jeune fille au milieu de la route, placée là, allongée les bras le long du corps. Donc la jeune fille qui était Ashley avait été étranglée. Du coup, et quand les deux témoins vont toucher son corps, ils vont constater que son cadavre était encore chaud, donc elle a été déposée là et a été assassinée il y a peu de temps. Donc, il est important de noter que le cadavre de Ashley a été retrouvé à environ 16 km du domicile de Steven et Daniel. Donc, c'était une parenthèse. Donc, les deux témoins vont prévenir la police et les policiers arrivent. L'enquête débute et initialement, les policiers n'avaient pas l'identité de la victime, donc les parents n'ont pas été prévenus. Rien. Donc la journée continue du côté des parents de Ashley jusqu'au soir où Ashley était censée rentrer et Ashley ne rentre pas de l'école. Donc les parents, ils étaient inquiets, mais ils se disent bon, enfin ils se disaient peut-être que elle avait un truc à faire avec une amie ou je sais pas quoi. Enfin, ils étaient dans leur petite inquiétude jusqu'à ce que un ou une amie de Ashley les appelle et leur dise qu'un cadavre a été retrouvé et que si ils n'ont pas des nouvelles de Ashley, ce serait bien qu'ils aillent au poste de police pour aller vérifier que ce ne soit pas Ashley. Alors là, les parents, ils étaient en mode attendez. Donc, ils appellent l'école pour vérifier que Ashley est bien arrivée, en fait, à l'école, parce que pour eux, leur fille est allée à l'école. Et c'est là que l'école leur apprend que Ashley n'avait pas mis pied à l'école ce jour-là. Là, les parents, leur monde s'écroule. Donc, ils vont au poste de police, la peur au ventre, pour vérifier si le cadavre trouvé était leur fille. Donc, une fois au poste de police, une photo du cadavre sera présentée aux parents. Et la mère de Ashley n'avait tellement pas le courage, en fait, de regarder la photo du cadavre, qu'elle va demander au père de Ashley qu'il regarde la photo tout seul. Et quand on va lui présenter la photo, là, en fait, il a été envahi par une vague de désespoir. Parce que le cadavre identifié était bien celui de leur fille. Donc, les policiers vont leur parler et leur expliquer comment le cadavre a été retrouvé, etc., etc. Et ils vont leur dire que Ashley avait été étranglée. Et petite parenthèse, il est important de noter que le fait d'étrangler quelqu'un, c'est un acte intime. Les meurtriers qui étranglent généralement leurs victimes sont souvent des proches, en fait, parce que je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, c'est un acte vraiment intime. Une personne qui ne connaît pas l'autre personne ne va pas venir en mode, viens, je t'étrangle. Enfin, voilà, c'est très rare que ça soit dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment classé dans la catégorie de meurtre, enfin, intime en quelque sorte, voilà. Donc, après l'identification du cadavre, une enquête formelle a débuté. Et c'est avec l'enquête qu'on va découvrir, en fait, la petite escapade de Ashley chez les Sandboard la nuit du 9 au 10 février, du coup. Et l'enquête va aussi déterminer que Daniel, le petit frère, avait un crush sur Ashley. Sauf que Ashley, elle, ne s'intéressait qu'à son grand frère Steven. Donc, le truc était un peu un beau bazar. Les enquêteurs vont s'intéresser du coup aux enfants Sandboard et la journée de Steven sera checkée sans souci. Mais pour Daniel, il y aura un petit problème parce que Daniel a raconté que la dernière fois qu'il a vu Ashley, c'était à minuit 45 quand il lui a apporté un soda. Et le lendemain, il s'est rendu à l'école. Quand il s'est réveillé, apparemment, Ashley n'était plus là. Le problème, c'est que les policiers vont vérifier ses dires et vont se rendre compte que la journée du 10 février, Daniel ne s'est pas rendu à l'école. Donc la mère des frères va plus tard en fait corroborer la version de son fils du coup. Et elle va raconter que la dernière fois qu'elle avait vu Ashley, c'était aux alentours de minuit 45, quand son fils Daniel lui a apporté un soda. Et que quand elle s'est réveillée le lendemain aux alentours de 6h45, Ashley n'était plus là. Le problème c'est que malgré en fait le fait qu'ils essayaient en fait de se disculper, etc., etc., la police ne va pas les griller du coup de la liste des suspects. Hein, au contraire, ils vont demander un mandat pour pouvoir faire une perquisition et aussi pour prélever les ADN de toute la famille. Donc, la perquisition va révéler des traces de sang dans la maison et plusieurs preuves indirectes, mais en fait, ils ne vont pas réussir à déterminer si le sang retrouvé appartenait à Ashley. Donc, gros bémol, quoi. Donc, n'ayant rien trouvé sur l'affaire, l'affaire est toujours ouverte, le dossier est toujours ouvert jusqu'à présent, mais les parents de Ashley vont affirmer publiquement qu'ils pensent que c'est Daniel qui a tué Ashley et que c'est le fameux Cody qui vivait chez les Sandborn qui a aidé Daniel à déplacer le cadavre. Donc, l'affaire en est là. Depuis 1999, le dossier est toujours ouvert et les parents de Ashley réclament toujours la vérité à ce jour. Une récompense de $15,000 est disponible pour toute information conduisant au meurtrier. Avec cette affaire, il y a une affaire parallèle, du coup, qui aurait pu résoudre, je pense, le meurtre de Ashley. Je vous explique. Vous avez certainement vu que sur la photo, du coup, du podcast, il n'y a pas que Ashley. Il y a un jeune homme aussi sur la photo. Donc, je vous présente Tony Torres. Tony était un jeune qui a déménagé de New York avec ses parents et qui a emménagé du coup dans la région où vivaient Ashley et les frères Sandborn. Donc, un jour, pendant l'enquête du décès de Ashley, les médias parlaient de l'affaire. Et Tony, qui regardait la télé du coup avec ses parents, va leur dire, il va leur balancer en fait vraiment comme ça, qu'il connaît l'identité du meurtrier de Ashley. Le problème c'est que quand tu viens de New York, tu comprends vite en fait que même si tu sais des choses, tu fermes ta bouche. Donc son père va lui dire, soit tu te lèves de là où tu es, tu vas au poste de police, tu as balancer la personne qui a commis ce crime, soit tu fermes ta bouche et tu ne dis rien. Malheureusement, son père va regretter ne pas l'avoir emmené au poste de police pour faire une déposition parce que 3 mois plus tard, Tony a disparu et ne sera jamais retrouvé. À ce jour, il est toujours porté disparu, on ne sait pas du tout où il est. Donc, il a été vu la dernière fois à une fête organisée par une amie à lui. Et au cours de cette fête, Tony devait aller dans un supermarché pour chercher des trucs pour la fête. Du coup, donc la personne qui s'est avérée, du coup, à la personne qui a emmené finalement Tony dans ce supermarché, c'était Jason. Vous vous rappelez du Jason qui a déposé Ashley chez les Sanborn? Oui, oui, ce Jason-là. Yes. Donc ils partent au supermarché, ils étaient censés revenir avec les achats qu'ils ont effectués, sauf que Jason va revenir tout seul. Donc quand Jason revient tout seul, on lui demande où est Tony. Il va raconter que Tony avait été embarqué par un de ses potes dans sa voiture et que il est parti à une autre fête, etc. Sauf que on ne retrouvera jamais Tony. De plus, les gens de la soirée vont remarquer que Jason avait les vêtements mouillés à son retour du coup du supermarché, sauf que en fait il y avait zéro point d'eau entre la maison et le supermarché où ils ont été. Donc pourquoi ces vêtements étaient mouillés, I don't know. Et personnellement, avec tous ces éléments, je pense que ni Steven ni Daniel ne sont les meurtriers de Ashley. Je pense que quand Ashley est arrivée au domicile des Sanborn et s'est rendue compte qu'elle n'allait pas pouvoir être seule avec Steven, ça a dû l'énerver, elle devait être irritée et elle a dû appeler quelqu'un pour qu'on vienne la chercher. Et vous vous rappelez qui l'a emmenée là et qui avait encore la possibilité de venir la chercher. Donc pour moi, elle a appelé du coup quelqu'un pour qu'on vienne la chercher. Et vous vous rappelez du fait qu'elle avait menti à Jason lui disant qu'elle allait chez sa tante en faisant passer le domicile des Sanborn chez, pour le domicile de sa tante, ne sachant pas que Jason connaissait les Sanborn et qu'il connaissait leur domicile. Vous voyez un peu tout ça. Donc, en plus de la disparition de Tony, qui était vraiment dans des conditions Jasonettes, franchement, je vous laisse faire votre propre conclusion parce que je ne vais pas le dire en fait. Je veux pas me faire poursuivre en justice, mais mettez tous les éléments en commun et posez-vous les bonnes questions et tirez-en la bonne conclusion. Yes. Aujourd'hui, vous allez faire cet exercice vous-même. Je suis désolée, je ne vais pas pouvoir donner mon avis parce que j'ai vraiment, vraiment pas envie de me prendre une poursuite sur le dos. Je vous aime bien, mais je ne vais pas risquer en fait mon casier judiciaire pour vous en fait les gars. Donc voilà l'histoire d'aujourd'hui, hein, une histoire vraiment bizarre, une histoire je sais vraiment pas. Et Ashley, on peut dire que elle a été pour moi, elle a été comme une ado type en fait. On a tous nos degrés d'adolescence et elle, c'était son degré d'adolescence qui l'a conduit à ça. Malheureusement, ça a conduit à sa perte. Qu'elle repose en paix. Et s'il y a des adolescents qui écoutent mon podcast, croyez-moi, l'insolence, ne pas respecter les couvre-feux, penser que tout le monde est ton ennemi, blablabla, c'est une phase. Trust me, c'est juste une phase. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.